Vous êtes sur RTL. Yves Calvi. RTL Matin.
Il est 8h21. Bonjour, professeur Arnaud Fontanet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Épidémiologiste, directeur du département santé global à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique. Vous avez été présent sur l'antenne d'RTL à chaque étape importante de cette crise sanitaire que nous venons de vivre. Est-ce qu'on peut commencer, même sans s'éterniser, mais par dire que les soignants ont très bien travaillé et que les Français ont joué le jeu pendant le confinement? En gros, ça s'accordait un petit peu d'autosatisfaction.
Je crois qu'on peut le faire. Oui. On peut le faire parce que le confinement a effectivement bien marché. D'abord pour sa fonction première qui était de stopper l'afflux des patients vers les réanimations. Ça a pris un peu de temps, on le savait, 3 semaines. Et puis après, ça s'est manifesté. Et ensuite, parce que le contrôle qu'on a eu sur la transmission du virus a été très bon. Le nombre de reproductions a baissé de 80%. Les indicateurs de mobilité montrent d'ailleurs que les Français ont bien respecté le confinement, peut-être mieux que beaucoup de leurs voisins européens. Et de fait, on peut se féliciter d'arriver à une phase de sortie de confinement où le niveau de circulation sur le territoire français est bas, mais le virus est toujours présent. Mmh. On le voit, il y a des clusters qui s'allument de ci, de là. Donc il faut garder un niveau de vigilance, mais voilà, les choses se sont pour l'instant bien passées. Et une fois de plus, je m'associe à vos remerciements pour les soignants qui ont fait un travail fantastique.
Donc réussite collective, est-ce qu'il y a des chiffres qui illustrent ces bons résultats, selon vous, qu'il faut citer ce matin ?
Alors c'est difficile parce que les indicateurs qu'on est en train de mettre en place ne sont pas encore complètement stabilisés. On a les chiffres traditionnels qui sont le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation, nouvelles admissions en réanimation, passage aux urgences, tout ça est en baisse régulière. Ça c'est des indicateurs qui sont vraiment robustes, qu'on peut suivre et qu'on connaît bien parce qu'on les a déjà validés sur plusieurs semaines. Le nouveau chiffre qui va être extrêmement intéressant, c'est le nombre de nouveaux diagnostics chaque jour sur le territoire français, qui sera basé sur les diagnostics faits dans les laboratoires hospitaliers, les laboratoires de ville et les nouvelles plateformes qui ont été installées pour faire jusqu'à 40 000 tests par jour. Ce chiffre n'aura de validité que si les personnes les utilisent, ces plateformes. C'est-à-dire que si les gens qui ont des symptômes vont effectivement voir leur généraliste, à défaut appellent le 15 pour être dirigés vers ces plateformes, se font tester. Et si effectivement on arrive à avoir par exemple plus de 50 000 tests par jour sur le territoire français, on sait que les plateformes sont utilisées. Et si le chiffre de nouveaux cas positifs reste faible dans ce contexte où on sait que les gens sont testés, alors on saura qu'on a un contrôle sur le virus.
Alors avec un apparent paradoxe, si je vous suis bien, c'est que par définition, puisqu'on cherche, puisqu'on teste et qu'on a même des brigades pour le faire aujourd'hui, on va forcément découvrir des cas. Mais c'est bien parce qu'on est en train de les rechercher.
Exactement. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut attendre un petit peu pour voir ces chiffres se stabiliser. C'est qu'une fois qu'on sait que le système sera opérationnel, c'est-à-dire qu'on va, alors d'une part les gens vont consulter, puis comme vous le disiez, il faudra être proactif pour aller vers des populations qui, elles, de toute façon, n'ont pas de généralistes, ne sauraient pas comment s'y prendre. Et j'ai vu des expériences intéressantes avec les agences régionales de santé, d'Île-de-France, de Hauts-de-France, qui ont créé, alors ce qu'ils appellent des barnums, vous savez, ces stands où on va se faire tester. Et ça, c'est des très bonnes initiatives parce qu'il y a des populations dont on sait qu'elles ne vont pas nécessairement aller consulter, qu'il faut aller chercher. Et c'est là aussi où le virus pourrait circuler de façon cachée.
La réussite que nous évoquons ce matin est-elle due davantage au respect de nos applications des mesures barrières et au confinement que nous avons vécu ou est-ce qu'elle peut être due aussi, puisque ça fait partie des questions qu'on se pose maintenant, à un virus qui ne résiste pas à la montée des températures et donc à ce qu'on, pour aller très vite, ce qu'on appelle la saisonnalité?
Alors, pour beaucoup de virus respiratoires, la saisonnalité, elle est connue. Elle est due à deux facteurs. D'une part, ces virus n'aiment pas les températures plus élevées, c'est vrai. Et en laboratoire, ce nouveau coronavirus, il n'aime pas la température. On voit que ça, on n'arrive pas à le faire pousser dès qu'on fait augmenter la température. Mais surtout, quand il fait beau, comme il fait beau aujourd'hui, les gens sont dehors. Et ce qu'on a de mieux en mieux compris par rapport à ce virus, c'est que sa transmission se fait beaucoup dans les espaces confinés, alors que quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes moins à risque.
Il y a des mesures d'aération dans tous les sens du terme qui restent absolument, prophylactiques, on peut le dire ?
Prophylactiques, oui, donc préventives. C'est vraiment, pour moi, c'est peut-être ce que j'ai le plus appris dans la transmission de ce nouveau virus. C'est qu'on a un modèle qui s'éloigne un petit peu de ce qu'on avait traditionnellement pour les virus de la grippe, avec bien sûr toujours cette transmission par les gouttelettes qui justifie les gestes barrières,
le port du masque,
etc. Toutes ces choses-là, la distance physique, ça reste évidemment vrai. Ce qu'on a appris plus récemment et qui nous a surpris, c'est que ce virus, d'abord, il a un tropisme dans la gorge. C'est-à-dire que les concentrations de virus qu'on retrouve dans la gorge sont par exemple 1000 fois supérieures à celles qu'on retrouvait pour le coronavirus du SRAS de 2003. Vous vous rappelez la pneumopathie atypique. Ce coronavirus, il était dans le fond de vos poumons. Le nouveau coronavirus, il est dans la gorge, avec des concentrations très élevées. Ça veut dire que quand vous parlez, notamment quand vous parlez fort, vous êtes plus en mesure d'expulser donc non seulement ces fameuses gouttelettes, mais également des particules très fines qui peuvent, elles, rester en suspension. Et vraiment, les travaux qu'on voit se développer depuis 3 semaines, 1 mois, montrent qu'il y aurait probablement des concentrations de virus dans l'air, dans les espaces confinés, oui, qui pourraient contribuer à la transmission. On ne sait pas de combien, mais c'est vraiment un nouveau concept qui est en train de naître et qui veut dire que l'aération va être importante. Et peut-être d'autres mesures, mais ça, bon.
Alors, ça veut dire, ouvrez vos fenêtres et aérez vos appartements et tous les lieux où vous habitez, mais ça, c'est un conseil d'ordre général. Et par ailleurs, j'imagine que vous estimez que la réouverture des parcs et jardins est une nouvelle très importante et positive.
Donc, réouverture des parcs et jardins, c'est très bien. Je pense qu'effectivement, il faudra toujours garder la distance physique. Une fois de plus, si vous avez, si vous n'avez pas de masque à moins d'un mètre, les anglo-saxons disent mettre 2 mètres, eh bien vous êtes à risque d'une projection si la personne vous parle. Mais quand vous êtes en plein air, profitez-en, c'est bien. Et puis ça justifie, en revanche, que je vous racontais sur les espaces confinés, une mesure qui va être difficile à accepter pour beaucoup, mais qui, je pense, est importante, c'est le port du masque quand, par exemple, vous allez au théâtre, quand vous allez au cinéma. Et ça, je comprends bien que ça, on a envie, quand on est au théâtre, au cinéma, bon, ça y est, de se dire, oh, je suis un moment de liberté, j'enlève mon masque, oui, je regarde, je parle pas, pourquoi ? Bah, quand même, ce qu'on apprend sur les espaces confinés, je crois, nous incite à la prudence dans ce contexte.
Et vous, soucieux, êtes-vous soucieux, notamment en zone orange, de la réouverture en terrasse, et finalement ça va être sur nos trottoirs, hein, des restaurants et autres bistrots ?
Alors là encore,
avec des tables à 1 mètre.
Là encore, voilà, c'est la distance physique qui va compter. Hein. Quand vous êtes en espace comme cela, bon, je pense que je crois que c'était très important de toute façon de faire un geste pour les restaurants, les bars, je comprends tout à fait. Après, là, la distance physique va jouer et il faut la respecter.
Est-il possible que ce virus disparaisse complètement dans des délais rapides ?
Alors, pour ma part, je n'ai aucun argument rationnel pour le dire. Ce virus, il circule partout. Il y a des épidémies qui sont majeures actuellement. Le Brésil est en train de vivre une situation catastrophique. Il y a le jeu des hémisphères qui va bientôt jouer, c'est-à-dire que comme pour les virus saisonniers, il y a des périodes où il sera dans la partie sud de la planète.
Donc les Brésiliens, ils sont déjà en hiver, eux, hein.
Et puis il y a des moments où on va, le virus remontera au nord, comme on le fait avec tous les virus saisonniers. Donc je ne pense pas que ce virus va disparaître.
Et donc il peut revenir à l'automne ou à l'hiver, chez nous.
Et donc il peut revenir à l'automne et à l'hiver. Et c'est là où reviennent ces fameuses questions de deuxième vague. Alors, d'abord, il faut quand même être un petit peu prudent. Hein, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a dit qu'on serait un peu positif, un peu optimiste, parce que les Français en ont besoin. Mais on le sera parce qu'on a des outils de surveillance. Comme je l'ai détaillé au début, hein, cette capacité à suivre le nombre de nouveaux cas chaque jour sur le territoire français. Si les Français jouent le jeu et se font dépister, avec cet outil de surveillance, on va voir si les mesures qu'on est en train de prendre n'entraînent pas une reprise de l'épidémie, qui pourrait tout de même avoir lieu, y compris pendant l'été. Ça se voit avec des virus pandémiques.
Donc vous venez de nous dire, pardonnez-moi, que l'application Stop Covid, qui va devenir accessible à partir de ce week-end, selon vous, est un bon outil ?
Pour moi, c'est un bon outil, l'application Stop Covid. Hein, c'est ce que vous téléchargez sur votre smartphone, qui vous permettra de savoir si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été infecté. Vous le faites de façon tout à fait volontaire. Et ça sera un outil important de lutte parce que c'est un outil extrêmement rapide. Le processus habituel aujourd'hui consiste à vous être diagnostiqué, le résultat va être transmis à la Caisse nationale d'assurance maladie, quelqu'un va vous téléphoner, va vous dire avec qui vous avez été en contact, oui, vous faites la liste, on va appeler ces gens, vous voyez que c'est un processus qui prend du temps. Plus toutes les personnes que vous ne connaissiez pas et que vous serez incapable de nommer ou de donner un contact. Quoi. Avec cette application, pour peu que les Français jouent le jeu et la téléchargent, à ce moment-là, vous serez vous-même directement informé si vous avez été en contact avec quelqu'un qui est infecté.
Et je rappelle que ça n'est pas tout, partout et n'importe quoi. Il faut avoir été pendant plus d'un quart d'heure, en tout cas au minimum un quart d'heure, à proximité et à moins d'un mètre en gros, de quelqu'un qui serait vraiment malade. Hein. C'est pas toutes les personnes que vous allez croiser dans le métro à chaque instant. Je le dis parce que je pense qu'il y a un certain nombre de Français qui sont impressionnés à l'idée de se dire ça va biper tout le temps. Il faut vraiment avoir rencontré quelqu'un, enfin avoir été près de quelqu'un de malade pendant un bout de temps. Nous sommes d'accord.
Voilà, et c'est sûr qu'il y aura des ajustements à faire. Hein. On est en pleine phase d'expérimentation avec cette application. Je crois que les Norvégiens ont plus de 50% qui l'ont téléchargé. Hein. C'est pour vous dire que voilà, il y a des pays sur lesquels ils ont beaucoup moins de réticence, hein, à ce type d'utilisation. Il est essentiel qu'elle se fasse, une fois de plus, dans le respect de la confidentialité des données, de l'anonymat, etc. Donc là-dessus, ce sont des principes très stricts et je crois qu'ils sont respectés dans le contexte de cette application, mais c'est une bonne application et elle va nous aider sur le traçage des contacts.
Une toute dernière question, ce sera la dernière. Les malades, même faiblement atteints, sont-ils immunisés ? Et est-ce qu'on peut enfin répondre de façon définitive à cette question ?
Alors, on peut y répondre sur une durée de temps qui est celle de nos études. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on s'est rencontré que même les personnes qui avaient fait des formes mineures ont des anticorps anticorps qu'on appelle neutralisant, c'est-à-dire capable de neutraliser le virus, donc vraisemblablement protecteur. On le sait maintenant avec un délai de 40 jours par rapport à la date de début des signes. Je suis malheureusement incapable de vous dire ce qui se passera par la suite et c'est l'objet des études que nous menons.
Merci infiniment, professeur Arnaud Fontanet. Dans un instant, on va retrouver Amandine.